Alors, nous allons dans le livre du prophète Agée. Alors, avant-dernier de l'Ancien Testament, un des prophètes du retour, c'est un des premiers prophètes du retour. Après un interlude la semaine dernière, on va terminer cette fois-ci le livre qui se compose de quatre prédications, quatre messages, quatre prophéties que Dieu donne à son peuple, le peuple qui est revenu de Babylone à travers le ministère de ce monsieur âgé. Et donc on va dans le chapitre 2 de Agée. Et on va prendre la lecture à partir du verset 20. Donc, Agée 2, 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel. Et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Alors, on va reprendre un petit peu du contexte, de l'arrière-plan de tout cela, puisqu'on a fait un petit arrêt, on a des visiteurs. Nous sommes dans la période post-exilique, c'est-à-dire après l'exil à Babylone. On parle de la partie sud d'Israël, les deux tribus qui sont fidèles à la ligne davidique, qui ont été pourtant emmenées en Babylone à cause de leur péché, un péché qui était très grave, jusqu'au point où, par exemple, dans le temple lui-même, il y avait des abominations. Et chose intéressante, les femmes en vue dans la société, les femmes des notables se prosternaient devant les abominations dans le temple de l'Éternel. Voilà, ça c'est un peu la situation qui a précédé la déportation du peuple à Babylone et surtout la destruction du temple, la destruction de Jérusalem. Mais déjà, avant cela, Dieu a promis que le temps de cette déportation est compté, 70 ans, et après 70 ans, il réveille le cœur d'un roi païen, de façon à ce qu'il publie un décret qui ordonne aux Juifs qui veulent de retourner à Jérusalem pour bâtir le temple. Intéressant que l'Esprit de Dieu pousse un roi païen pour démarrer la construction du temple. Et le Seigneur réveille le cœur d'un certain nombre de Juifs, un petit nombre, et les voilà qui reviennent à Jérusalem depuis Babylone. Alors, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Ce sont des choses réelles. Ce n'est pas simplement dans un vieux bouquin. Ce n'est pas des choses du passé. On a l'histoire de France, par exemple. Ça n'a pas grande prise sur notre vie quotidienne, soi-disant. Mais ici, on a des gens qui sont depuis 70 ans, bon, donc une bonne partie sont nés à Babylone. Ils sont nés, en fait, dans la plus grande capitale du monde à l'époque, dans la capitale de la superpuissance. Vous voyez un peu comment on pourrait traduire aujourd'hui. Ils sont à l'aise. Et de notre vivant, les archéologues ont remis au jour les beautés archéologiques de Babylone, par exemple. et même de Ninive, qui était un peu moins puissante avant ça. Et on s'aperçoit que c'était très développé. Alors, partir d'un endroit stable, avec une grande armée, protégée, il n'y avait pas d'autre puissance qui pouvait égaler. L'Égypte avait été battue par Babylone, donc c'était classé. Partir de là pour faire un périple de quelque 1800 km, et à l'époque c'était pas en TGV, pour revenir dans une ville qui est en ruine, qui a été dans une province qui a été colonisée par des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont un genre de culte mélangé de l'éternel et de tous les dieux géographiques, qui ont même transformé l'éternel en un dieu géographique, de façon à calmer les lions qui dévoraient. Ça, c'est encore, c'était il y a 70 ans. Voilà, il fallait quand même que le Seigneur réveille l'esprit de ces gens pour entreprendre quelque chose comme ça. Et vous pouvez imaginer ces gens qui arrivent à Jérusalem. La plupart n'ont pas connu cela, n'ont pas connu la ville, mais elle est en ruine. Et si vous voulez voir un peu à quoi ressemblait Jérusalem à l'époque, il ne faut pas regarder les photos qu'on a d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que c'était. Mais il faut aller dans Néhémie et regarder, lire le périple que Néhémie a fait une nuit, deux ou trois jours après son arrivée à Jérusalem, et où il a du mal même, et il ne peut pas faire le tour des murs de Jérusalem avec sa monture. Il n'y a pas de place pour, probablement un âne, hein, pas de place pour qu'un âne passe. C'était vraiment la jungle. Alors voilà, on a ça, le peuple est revenu, et le peuple est rempli d'enthousiasme, peu, mais ils sont remplis d'enthousiasme, et ils commencent bien. Ils rebâtissent l'autel de l'Éternel, parce que c'est là qu'on fait le sacrifice. Et comme on a vu, il faut un médiateur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, c'est le grand malheur, c'est qu'on essaye de bâtir le bâtiment de l'Église avant qu'on bâtisse l'Église. Donc on a rien appris. Hein. Mais voilà, ils ont ça. Et puis, ils sont mandatés par Cyrus le roi païen pour rebâtir le temple. Et donc, ils posent les fondements du temple. Et à l'époque, ça, c'était vraiment du travail. Les fondements du temple. Et puis, on a déjà vu, ça c'est un peu une révision, hein. C'est à ce moment-là que l'opposition s'est manifestée. Une chose à souligner, cette opposition n'est pas une opposition politique. C'est une opposition religieuse. Ce sont les Samaritains qui viennent empêcher la reconstruction du temple. Je dis qu'elle est religieuse parce qu'en fait, c'était le gouverneur de la province qui s'opposait. Mais ces gens-là étaient venus quelque temps auparavant pour proposer aux Juifs de bâtir le temple avec eux. Parce qu'ils disent, nous sommes frères. Vous voyez donc, c'est religieux. En fait, ils n'étaient pas frères, ils étaient demi-frères seulement. Mais à cause du fait qu'ils avaient descendu l'Éternel au niveau des autres dieux, ils ne pouvaient pas bâtir une maison à l'Éternel. C'est impossible. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Mais ces gens-là viennent et ils s'opposent maintenant, parce qu'en fait, tout au long, ils ont été opposants, adversaires. Et ils parviennent à interdire, à arrêter l'œuvre. Là encore, on a une petite leçon qu'on a soulignée, c'est la futilité de se reposer sur le bras des hommes, même des hommes politiques, même des hommes puissants. Et ça, c'est la tentation. En France, ça a toujours été notre tentation. Et encore aujourd'hui, on est en train de faire la même bêtise. C'était la mort de la réforme en France et c'est la déchéance de l'Église moderne. On cherche à s'appuyer sur le bras politique. Mais Cyrus, qui a recommandé, même ordonné qu'on construise le temple, il est mort. Et maintenant, il y a un autre roi. En fait, il y a même eu un autre roi entre les deux. Un autre roi, ces pauvres rois, ils ne doivent pas avoir des vies très saines parce qu'ils ne durent pas longtemps. pour la plupart. Et ce roi-là, maintenant, interdit que l'œuvre continue. Et les Israélites, les Juifs qui sont rentrés, se découragent, et pendant 14 années, c'est l'immobilisme. La maison de Dieu reste en ruine. On continue de faire le sacrifice sur l'autel, il n'y a pas de problème là, mais au milieu des ruines. Immobilisme, mais pas totalement. Et vous rappelez comment Agée commence sa prophétie, c'est-à-dire comment Dieu interpelle son peuple quand il veut réveiller son cœur, parce qu'ils ont laissé la maison de Dieu en ruine et ils se disent d'une manière très confortable, le temps n'est pas venu pour cela. Et aujourd'hui, nous avons la même chose dans notre cœur. Oh, ça n'est pas exactement encore le temps propice, parce que c'est difficile. Comment est-ce que je peux parler à telle personne? Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Mais c'était le bon moment pour bâtir non seulement leur maison à eux, mais pour les lambrisser, pour mettre le superflu. Et le Seigneur les confronte. Et ça, c'est tout le début. Vous avez vu qu'il les confronte avec leur logique faussée et il réveille leur esprit si bien qu'en 3 semaines, l'œuvre reprend. Une œuvre qui n'a pas bougé depuis 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de différence. Hein. L'édit du roi qui interdit est toujours là. Il est vrai que ce roi-là est mort, lui aussi. Mais l'œuvre reprend. Et donc, on a vu comment le Seigneur parle à son peuple pour les amener à ne poser leur confiance en rien, sinon en lui. Et c'était la dernière leçon qu'on a vue. Et maintenant, dans la quatrième prophétie, on va continuer en fait. C'est une toute petite prophétie, mais voilà. Et on s'aperçoit qu'elle commence, qu'elle vient le même jour que celle qui était précédemment donnée, le 24e jour du 9e mois. C'est intéressant de voir la chronologie. Et j'ai intitulé ce message, le sceau de l'Éternel. Parce que là, le Seigneur va être beaucoup plus clair par rapport à ce qu'il fait. Et puis, il ouvre la porte pour que nous étudions un jour Zacharie, parce que Zacharie, encore je lisais avant que vous arriviez là, c'est presque le plein jour, pas tout à fait, il faut arriver dans le Nouveau Testament, mais c'est là. Et donc, ce 24e jour du 9e mois, ça a été un jour assez occupé pour Agée, parce que déjà il a été envoyé, vous vous rappelez, plus tôt dans la journée, pour poser des questions aux sacrificateurs et pour montrer, apporter la parole de l'Éternel au peuple et les encourager à se reposer entièrement dans la foi en ce que Dieu fait. C'est-à-dire, vous vous rappelez que la vertu ne se transmet pas. C'est-à-dire que ça n'est pas ce que le peuple fait qui va leur donner un statut devant Dieu. Mais en même temps, tout ce qu'ils font est taché par ce qu'ils sont. Donc, la souillure se transmet. De la même manière que notre humanité mortelle se transmet. J'ai utilisé plusieurs fois cette illustration, mais je l'utilise encore. C'est assez intéressant quand, une fois, mon fils s'est baissé pour jouer avec ses filles, et je me suis aperçu qu'il commençait à perdre ses cheveux. Alors, vous voyez, lui qui s'est moqué contre ma perte de cheveux, eh bien, en fait, je ne lui ai transmis qu'une vie qui meurt, parce que lui aussi, il vieillit, et lui aussi, il perd ses cheveux. Il paraît que c'est un gène qui vient de la mère, qui conduit ça. Mais on va laisser les scientifiques de leur côté. Ah, c'est ce qu'on m'a dit, et je l'ai lu cette semaine, hein, et ça doit être vrai si je l'ai lu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, dans ce dernier message, on a vu, le dernier message qu'on a vu il y a 15 jours, hein, la vertu ne se transmet pas, c'est pas parce qu'on offre le bon sacrifice qu'on est amélioré par ce sacrifice. Non, non, c'est Dieu qui donne la vie. Mais en même temps, ce que j'apporte, mes bonnes œuvres, ce par quoi j'essaie de me faire valoir, ne me fait pas valoir auprès de Dieu. parce que c'est quelqu'un de souillé, c'est quelqu'un de pécheur qui amène cela. Et on a eu plusieurs illustrations. Il y a déjà un mois, au huitième mois, Dieu a envoyé Zacharie prophétiser. Alors, c'est intéressant que la prophétie de Zacharie est tout à fait différente. Il ne s'adresse pas nécessairement au peuple directement. Mais voilà, Zacharie va continuer, il prophétise pendant un peu plus longtemps, et il va révéler de grandes choses. Dieu révèle de grandes choses par son prophète au sujet de ce qu'il va faire dans la suite des temps. Et la parole de Dieu vient ce jour-là de nouveau à Agé, même jour. Mais cette fois-ci, elle s'adresse à Zorobabel. On se rappelle que Zorobabel, c'est le gouverneur de Juda, c'est-à-dire celui qui dirige le peuple qui est revenu. Et c'est cet homme que Dieu a suscité pour conduire le peuple, et Dieu lui parle, à lui en particulier. C'est intéressant aussi que Zacharie va parler à Zorobabel personnellement, mais ça c'est une autre chose. Dieu avait réveillé l'esprit de Zorobabel et il l'avait assuré au premier chapitre, « Je suis avec vous ». Verset 13, 14. « Je suis avec vous. » Zorobabel, fils de Shealtiel, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, et selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et il dit, « Je suis avec vous. » Et puis, Dieu lui avait parlé de nouveau et l'avait exhorté à se fortifier en l'assurant, chapitre 2, verset 4, « Je suis avec vous. » On aurait pensé que c'était une chose qui allait de soi sans qu'on la dise, mais Dieu a besoin de répéter cela sans arrêt. Et enfin, Dieu était revenu vers le peuple et leur avait montré que même le temple et le sacrifice ne pouvaient pas les purifier. Seule une œuvre accomplie par Dieu dans le cœur pouvait vraiment purifier. Et c'est là que, par exemple, la lecture qu'on a eue dans le chapitre 14 de Jean nous montre comme quoi toute la parole de Dieu va dans le même sens. C'est ça. Il faut que cet esprit vienne. Seule une œuvre de Dieu accompli dans le cœur, peut purifier. Et Dieu avait assuré son peuple que malgré les apparences, ils étaient un tout petit reste, et même depuis qu'ils avaient commencé la reconstruction du temple, leur grenier était toujours vide, il n'y avait pas encore eu la récolte, mais il les avait assurés, « Je répandrai la bénédiction. » Et ça, c'est très important. On a tendance à glisser sur ces choses-là, et dans certaines cultures, par exemple, on parle de la bénédiction, et tout de suite, ah, ça, vraiment, le Seigneur il va tout nous donner ce qu'on veut. Mais là, il n'y avait rien, parce que ça n'était pas le temps. On ne peut pas avoir quelque chose dans le grenier avant la moisson. En fait, c'est ce qu'il dit. Et avant le temps de Dieu, la pleine bénédiction ne peut pas être là. C'est pour ça qu'on dit souvent, enfin je l'ai répété plusieurs fois, un peu pour frapper, pas choquer, frapper plutôt, que Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Ah, on va dire, mais quand même, il est là partout. Non, dans l'Ancien Testament, on a des prophéties de Christ, on a des annonces de Christ, on a des images, on a même des théophanies, des apparitions pré-incarnées. Mais Christ, il faut attendre Matthieu chapitre 1, où on a le fils d'Adam qui vient, et il est là. Parce que si Christ n'est pas là, le salut ne se fait pas. Il faut qu'il revête ce corps. Parce qu'il faut une mort, comme on a vu, n'est-ce pas? Et Dieu ne peut pas mourir. Il faut un homme pour mourir. Vous voyez? Donc, Dieu a dit « Je répandrai la bénédiction ». Et cela est important pour nous parce que nous ne voulons pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni en bas, ni en haut, mais seulement en Dieu. C'est ce que fait Dieu qui apporte le salut. Et ça, c'est vraiment une leçon fondamentale. Mais, tout cela est bien joli. Tout cela est bien joli. Mais Zorobabel, c'est un chef. C'est un chef politique et il doit gouverner ce peuple. Et franchement, ce peuple est très rebelle. Ce peuple est prêt à retourner dans ses anciennes voies, comme on vient de voir pendant 14 ans. En outre, Israël est tout petit. Alors, Israël était petit avant la déportation, mais là, maintenant, c'est vraiment petit-petit, hein, parce qu'on parle de un peu plus de 42 000 habitants. Bon, même s'ils ont produit quelques enfants entre-temps, on n'est pas très, très grand. Je pense que peut-être notre région est plus peuplée. Et Israël, au niveau politique, est entouré de superpuissances. Vous avez Babylone, qui est un peu en train de baisser, mais à l'est, nord-est. Il y a l'Égypte encore, au sud-est. Il y a la Syrie. Bon, la Syrie est vraiment en train de disparaître, mais au nord. Mais quand on va dans Zacharie, il est encore parlé d'un pouvoir, là. N'est-ce pas? Donc, entouré de superpuissances. Alors, effectivement, déjà dans leur passé, ces grandes nations, bousculant pour faire une place, ils ont bousculé Israël. Israël est placé un peu sur une faille entre des plaques tectoniques au niveau politique. Et chaque fois que, bien sûr, les armées de Babylone allaient battre les Égyptiens à Carchemish, par exemple, il faut qu'ils passent par Juda. C'est la voie. Et bien entendu, ils ne passent pas gratuitement. Donc, c'est déjà comme ça, et Israël avait été beaucoup affecté. Il y avait eu des mauvaises alliances, il y avait eu des erreurs politiques, il y avait eu beaucoup de mal. Et déjà, on voyait les signes de l'affaiblissement de Babylone. Babylone n'est plus ce qu'elle était. Vous vous rappelez la statue du rêve du roi, Nebuchadnezzar? L'or était parti déjà, l'argent aussi. On en arrivait au moment où il y avait mélange. Ça commençait à partir. Et quand on voit une superpuissance qui perd sa puissance, on sait qu'il y a des temps de troubles qui se préparent. Et Zorobabel le savait. Et on entendait parler d'un nouveau peuple qui montait en puissance, Nord-Ouest, l'Empire grec, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il allait se passer? On n'avait aucune idée. Et que deviendraient alors toutes les promesses de Dieu? Parce que c'est bien joli, il va répandre sa bénédiction, mais est-ce qu'on va être encore là? Voilà les questions qui peuvent passer par l'esprit de Zorobabel. Et on a vu dans toutes ces prophéties que Dieu répond aux paroles du cœur. Il entend, il écoute. Et là, en fait, quand il envoie Agé parler à Zorobabel, c'est parce qu'il a entendu les pensées du cœur de Zorobabel. Zorobabel est dans la crainte, ou tout au moins dans l'appréhension. Et Dieu envoie son prophète. On peut se poser la question, est-ce que nous sommes différents? Ce n'est pas que le cœur du peuple ne croit pas dans les promesses de Dieu. Non, ça, le cœur a été réveillé. Non, nous-mêmes, on a souvent prouvé qu'il est l'Éternel des armées, l'Éternel puissant. Combien de fois il nous a délivrés? C'est le Dieu Tout-Puissant devant qui rien ne peut se dresser. Mais où est le problème? Où est le problème? En fait, le problème, c'est le même. Notre problème, c'est le même que celui de Zorobabel. C'est le même que celui de Simon-Pierre. On est prêt à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Le miracle ne nous étonne pas, en fait, venant de Dieu. Le Seigneur est là. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre, ce qui permet que Pierre marche sur l'eau? C'est normal pour Dieu de faire cela. Mais voilà que nous prenons garde. Tout d'un coup, on commence à remarquer la force du vent, l'impétuosité des vagues, et on détourne le regard de celui qui nous tient sur l'eau, qui nous tient à travers les difficultés de la vie. On commence à détourner le regard et on regarde sur les difficultés. Alors le cœur est étreint de crainte et nous nous enfonçons. Et le croyant à ce moment-là crie « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. » Et en fait, c'est probablement le cri inconsciemment qui est dans le cœur de Zorobabel. Et la grâce de Dieu, la merveille de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est qu'il envoie agir pour lui parler. Et il enverra sa parole pour nous parler. Et donc, on veut l'écouter, n'est-ce pas? C'est cela. Il y a toujours en nous, il y a toujours en chacun de nous, comme en Zorobabel, comme en Pierre, se penchant à faire tourner les choses autour de nous. La bénédiction, c'est pour mon bien, n'est-ce pas? Non, la bénédiction, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, oui, l'Éternel est tout-puissant. Mais que va-t-il se passer pour le petit royaume d'Israël? Parce qu'il va être bousculé. On n'a pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de force. Comment est-ce que je peux marcher sur l'eau? Comment est-ce que je peux faire des choses qui sont contre nature, en quelque sorte, qui sont au-delà de la nature? Et nos questions, nos craintes donnent écho à cela. Et nous sommes, en fait, dans la même lignée, si nous sommes à Christ. Nous sommes dans un monde où les commotions sont terribles. Même si on était vraiment conscient de ces difficultés, on aurait de la crainte à allumer le bouton pour les nouvelles ou à regarder qu'est-ce qui va se passer, vous voyez. Non, non, il y a des choses terribles. Qu'est-ce qui va se passer? Et même quand on pense en termes spirituels, aujourd'hui, la religion du faux, la religion de l'homme s'affiche à grand renfort de milliards, et littéralement de milliards. Je regardais des choses qui se passent pour des grandes campagnes et des choses de ce genre. C'est effarant ce qui se dépense. Et pourquoi? Simplement pour que l'homme se pense capable de s'en tirer par lui-même. Ça, c'est le message aujourd'hui. Et l'Église de Christ est minuscule, elle est faible. Même son message, personne n'y prend garde. Qui est-ce qui écoute aujourd'hui? Qui est-ce qui écoute? Et c'est là que Dieu demande à ses prophètes de se lever et d'aller parler au peuple. Donc vous voyez, quand Haché vient vers Zorobabel, c'est un acte de grâce. Et Dieu n'a pas terminé. Dieu est toujours le même Dieu de grâce. Et quelle est sa réponse à cela? Qu'est-ce qu'il dit? Alors on va le décliner en quelques points. Et le premier, je l'ai intitulé, c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Haché. Et il parle à Zorobabel. Et il lui parle en termes durs, on va le voir, mais aussi il parle, je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur. Vous voyez? Ça, ce sont des mots qui sont des mots des mots d'amour. Et cette dimension n'apparaît pas si clairement en Haché, il faut le dire. Mais en Zacharie, c'est beaucoup plus clair. Donc là, je crois qu'on ne va pas avoir d'autres excuses sinon d'aller dans Zacharie un de ces jours. Hein. C'est intéressant, j'ai retrouvé toutes les cassettes, on avait parlé qui étaient perdues. La plupart sont retrouvées, donc voilà. Mais Dieu, une fois encore, demande à son peuple de bien considérer les choses. Vous voyez, le problème, c'est que nos craintes, nos appréhensions ont tendance à nous faire regarder les choses telles qu'on les imagine. Et la parole de Dieu nous ramène à regarder ce qui est la réalité. Et là encore, considérons les choses telles qu'elles sont. Mettons nos craintes de côté et réfléchissons. Vous êtes revenus à Jérusalem, il dit à son peuple et à Zorobabel, après des années de léthargie. Vous avez repris la construction du temple et le travail avance bien. Les pierres montent, les murs se bâtissent actuellement, alors que Haché parle à Zorobabel. Ça avance bien. Où est la source de tout cela? Est-ce que c'est dans votre force? Est-ce que c'est dans ce que vous pouvez faire? Non. Si vous allez dans la page suivante, Zacharie, chapitre 1, verset 12 et suivant, on a la réponse là. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem, des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, « Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » Vous voyez, tout le mal qu'il y a eu dans la déportation, la destruction, le fait que les enfants étaient vraiment lancés contre les murs, étaient mis à mort, écrasés contre les murs, des choses comme ça, ça ne venait pas de Dieu. Oui, oui, Dieu contrôlait ça. Non, il est souverain. Jusque dans ces choses-là, tout ce qui se passait, il l'avait décrété. Mais il n'était que peu irrité. Mais la méchanceté de l'homme ajoutait à cela. Et à travers un autre prophète, il parle contre Édom. Édom avait regardé les Assyriens, les Babyloniens venir faire du mal à Israël. Et ils avaient contribué à augmenter ce mal. Mais Dieu ne les laisse pas impunis. Et là, vous voyez, il a été peu irrité, mais une grande partie du mal vient de la méchanceté des hommes. Dieu va utiliser cela pour ses desseins. Ça n'est pas le Dieu de coton qu'on a aujourd'hui. Non, c'est un Dieu qui est puissant, c'est l'Éternel des armées. Mais regardons ce qui continue. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Ça veut dire « Jérusalem sera rebâtie. » Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Et ce mot encore qui revient, ça c'est le mot clé ici. Ça c'est l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas détruits, nous qui sommes pécheurs, pour laquelle nous ne sommes pas en enfer, en ce moment même, nous qui sommes pécheurs, c'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Mais attention, attention, Dieu ne nous aime pas pour nous-mêmes. Ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Il n'y aurait aucune assurance en cela. Si Dieu m'aimait pour moi-même, je n'ai aucune assurance. Parce que moi-même, je suis tellement changeant. Et vous savez ce que c'est entre les hommes. On va aimer quelqu'un très fort, mais tout d'un coup, cette personne va nous offenser et tout ça. Où est notre amour ce jour-là? Il disparaît, n'est-ce pas? Comme fumée. Hein? Non, il n'y aura aucune assurance. Nous sommes désespérément tordus. Et bien entendu, on peut déchoir de cet amour s'il est basé sur nous-mêmes. Non, Dieu aime parce qu'il a décidé d'aimer. Et son amour est en Christ. C'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de nous-mêmes, en dehors de l'homme. Il est dans l'homme, en grand H, mais pas dans un homme petit H. Et c'est pour cela qu'il a donné ce Fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que la Bible dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le Dieu d'amour, et il aime parce qu'il a décidé d'aimer. Il n'y a rien d'aimable en nous, et heureusement donc que ce n'est pas basé sur nous. Comment un cœur peut-il trouver son repos dans la confusion du jour présent? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver du repos? En se fondant sur l'amour de Dieu, sur le Dieu d'amour et sur ses promesses qui sont toutes en Christ. Qui sont toutes en Christ. Et vous voyez comme quoi, tout de suite, ça enlève le va-et-vient qu'on trouve parmi les hommes. Donc un Dieu d'amour. La réponse de la prophétie d'Agée à l'adresse de Zorobabel aussi nous montre que c'est un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant. Et c'est dans notre passage là. À travers la personne de Zorobabel, le peuple de Dieu était encore en proie à la crainte et l'appréhension. Comme on a vu, tout petit. Et il y a ce grand inconnu, ces grandes puissances et tout ça. Que va-t-il advenir de nous si faibles au milieu d'une situation si menaçante? On rit ou on sourit peut-être des craintes qu'avaient nos aïeux. On entend, c'est intéressant de lire certains des passages de Charles Spurgeon, et il y avait la crainte de l'Empire Prusse. On sourit, n'est-ce pas, aujourd'hui. Où est l'Empire Prusse? On va lire, par exemple, des passages des sermons de Dr. Lloyd-Jones, où il parlait de la crainte de la bombe. Ben, aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, n'est-ce pas? Peut-être qu'on ne devrait pas. Mais il y a toujours une crainte, il y a l'appréhension. C'est là. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Et en fait, si on n'a jamais ressenti cette crainte, cette appréhension, c'est qu'on n'a jamais trop réfléchi. On ne réfléchit pas. C'est dommage. La réponse du monde est pathétique. Elle est fausse et elle est ridicule. Le politicien promet que tout va s'arranger. Et on a entendu ça, n'est-ce pas? Et on entend encore ça. Lui, dont le souffle n'est pas entre ses mains. Sait-il s'il sera encore ici demain? Insensé celui qui le croit. Les amis sont là. Et ils peuvent être avec nous dans la tourmente, quand la tourmente vient, et ils vont nous assurer que tout ira bien. Et je me rappelle, lors de mon dernier voyage, c'est quelque chose qui m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais frappé avant, mais plusieurs fois, on a été dans un cas où il y avait des difficultés qui étaient évoquées, et à chaque fois, il se trouvait quelqu'un, c'était l'homme rempli de compassion de service, il disait « ça va aller ». Ça va aller. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Et ça, c'était la phrase qui est revenue plusieurs fois, c'était frappant. Qu'est-ce qu'il en sait? Il ne peut rien contrôler, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Premièrement, il est vrai. Premièrement, il est vrai. Et ce qu'il dit à Zorobabel est intéressant. Oui, la situation est critique. La situation peut porter à la crainte, mais écoute-moi bien, Zorobabel, écoutez-moi bien, elle va devenir pire. Elle va devenir pire. Regardez ce qu'il dit. Je détruirai la force des royaumes des nations. Bon, Zorobabel n'est pas bête, hein. Il a déjà vu comment ces nations se bagarrent et comment eux, au milieu, ils souffrent. Donc si Dieu annonce qu'il va y avoir des bagarres, des batailles, des guerres et tout ça, Israël va souffrir. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Ça, on l'a déjà vu. Et ainsi de suite. Vous voyez, la situation est critique. Il y a des choses qui se préparent. Et ça va être pire. Ça va être pire. Et d'une certaine manière, mes amis, il y a une consolation à cela. Il y a une consolation à cela. Il est bon de savoir que Dieu sait. Il n'est pas pris par surprise. Nous ne savons pas au sujet de l'avenir, mais lui sait. Et l'enfant a confiance en son père parce qu'il voit, il sait qu'il a déjà prévu. Et Dieu ne se contente pas de dire « je sais ». Il ne se contente pas d'entourer son peuple, mais il va plus loin. Et ça, c'est vraiment le Dieu de la Bible. Il dit « tout cela dont l'attente même vous saisit de crainte ». C'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Tout ce qui se produit dans la vie, c'est l'œuvre de Dieu. On ne comprend pas, on est désorienté, mais lui ne l'est pas. Lui sait exactement. Il contrôle toutes choses. Et c'est là que nous voyons cela continuellement dans la parole de Dieu. Continuellement, il revient et il montre que il sait, il contrôle. Et tout ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il a envoyé. On pense à Job. Alors, Job a vécu des choses, ça n'était pas au niveau des nations, c'était au niveau de la personne. Et vraiment, il a souffert. Il a tout perdu. Et tout ce qui lui restait, c'était vraiment pas un plus, n'est-ce pas? Mais qui était derrière? Ça n'était pas Satan. Satan a fait toutes ces choses, oui, oui, oui. Mais c'est Dieu, en fait. Parce que le défi, au début du livre de Job, il n'est pas lancé par Satan. C'est Dieu qui commence en disant, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Bien entendu, Dieu connaît Satan, il sait que Satan va répondre, répliquer en disant, « Oh, tiens, essaye avec lui, et puis tu vas voir. » Et en fait, Dieu ne voulait pas la bénédiction de Job, que Job ait tous les grands troupeaux et qu'il ait davantage de fils et de filles. Ce n'est pas ça la question. C'est que Job voit la gloire de Dieu comme il ne l'avait jamais vue. N'est-ce pas? Et comme nous, que nous la voyons comme nous ne l'avons jamais vue. C'est ça. Et donc, c'est exactement ce que Dieu fait ici. Il annonce. Il va ébranler les cieux et la terre. Et il le fait tout au long. Par exemple, vous pensez à ces deux hommes qui marchent le long d'une route et ils sont complètement découragés, dépités. Le fond du sac a lâché. Hein. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent, on pourrait dire presque. Ils sont en train de quitter Jérusalem, ils rentrent chez eux à Emmaüs. Et ils sont là, tristes. Et ils s'encouragent dans leur tristesse. N'est-ce pas ? Ils se parlent l'un à l'autre. Et voilà qu'il y en a un qui passe à côté, comme ça. Et que dit Jésus ? Il dit, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Non, non. Ne fallait-il pas que ces choses se passent comme ça ? Parce que Dieu contrôle tout ça. Il est en train de faire quelque chose à travers ça. À travers l'horreur de la croix, il accomplissait la plus merveilleuse des œuvres, n'est-ce pas ? Il mettait à mort la mort. Voilà ce que Dieu est en train de dire à Zorobabel, en fait. C'est le message éternel de la Bible. Donc, je vais avancer, mais un Dieu d'amour, un Dieu puissant et souverain, mais le Dieu rédempteur. Le Dieu rédempteur. Et c'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux relève, n'est-ce pas ? Non seulement Dieu aime son peuple et son Fils, non seulement Dieu dirige toutes choses, et il n'y a rien qui se lève pour lui demander des comptes. Non, mais surtout, il fait tout cela afin d'amener son dessein de rédemption à la plénitude, afin de faire ce que lui a décidé de faire. Allons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, et on va voir ça tellement clairement. Hébreux 12, on commence au verset 25 et suivant. En fait, bon, il faut mettre un peu d'arrière-plan là. L'auteur de la lettre aux Hébreux, tout le long, il a parlé comme quoi l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, est bien meilleure, bien supérieure à l'ancienne alliance. Et non seulement ça, mais l'ancienne alliance prépare pour la nouvelle alliance. Elle pointe vers la nouvelle alliance. Hein. Et donc là, dans le passage avant, il dit « Vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï, mais d'une autre montagne qui est bien meilleure. » Et maintenant, verset 25, regardez, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publia des oracles sur la terre n'ont pas échappé, ça c'était Sinaï, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, Sinaï, l'ancienne alliance, et qui maintenant a fait cette promesse. » Et là, on vient dans les prophètes. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et vous vous rappelez, on a vu ça dans Agée. Il va ébranler tout, il va ébranler toutes les nations. Ça n'a rien à faire avec simplement Juda et Israël. Ces mots, voilà maintenant l'interprétation, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsiste. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Dans tout ce qui se produit dans le monde et dans l'histoire, Dieu avance vers la plénitude de son dessein de salut, vers ce jour où le Fils va se présenter devant la présence de son Père avec cette épouse parfaite, glorieuse. Oui. Et tout ce qui se passe mène vers ce jour-là. Parfois, on entend quelqu'un qui va nous parler de circonstances, d'une délivrance qu'ils ont connue, qu'ils ont expérimentée. Mais ça laisse un petit goût bizarre, parce que quand on analyse ce qui nous est dit, Dieu est là comme un genre de petit boy au service de cet être humain si important, et voilà, il fallait qu'il le serve en lui faisant du bien, n'est-ce pas, en lui donnant la bénédiction. Oh, la bénédiction, quel malheur. Mais en fait, à travers tous les ébranlements qui se produisent sans cesse, que ce soit dans nos vies ou dans notre monde, en toute chose, à travers tous ces bouleversements, Dieu accomplit son dessein. Il amène ce qui est inébranlable à subsister. Et là, les Hébreux, ils étaient tout découragés parce que d'une part, ils étaient un petit nombre, Jérusalem était en ruine, le temple qu'ils étaient en train de rebâtir, vous vous rappelez, ça paraissait rien à côté de ce qui avait été avant. Hein. Les vieux leur avaient dit, non, ce que vous faites là, c'est rien, hein, c'est une cabane de jardin. Et tout ça, ils regardaient ces choses-là, et ils voyaient les nations autour, les dangers et tout cela, vous voyez. Mais Dieu leur dit, tout ça, ça va être ébranlé. Je vais ébranler, une fois encore, le ciel, la terre et le ciel. Tout va être transformé. Et si bien que, là, vous pensez que c'est le salut en Israël, mais le salut de Dieu n'est pas pour Israël. Il est pour l'Israël de Dieu. Et toutes les nations vont être ébranlées, si bien que, on se rappelle encore cette nation qui avait décrété officiellement que c'était une nation athée, l'Albanie. On a peut-être oublié ça, hein? Mais voilà, il n'y avait plus de Dieu en Albanie. Où est l'Albanie aujourd'hui? Et Dieu ébranle cette nation parce qu'il a un peuple là. Et aujourd'hui, il y en a qui annoncent et qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, dans ces pays, dans tous les pays, dans les nations ont été ébranlées. Et voilà ce que Dieu fait. Ce sont des bouleversements terribles, oui, mais en ce jour-là, et c'est l'Éternel des armées, l'Éternel Tout-Puissant, rappelez-vous, El Shaddai qui parle. « Moi, dit-il à Zorobabel, et ça, il parle au peuple en fait, « moi, je te prendrai et je te garderai comme un sceau. » Alors, un sceau, on ne sait pas trop ce que c'est. S-C-E-A-U. N'est-ce pas, pas le sceau pour le jardin. Le sceau, c'était quelque chose de précieux autrefois. Et d'un certain côté, c'est encore quelque chose de précieux. Le garde des sceaux en France, c'est quelqu'un d'important. Hein? C'est le troisième personnage du pays en importance. C'est intéressant. Le garde des sceaux. C'est lui qui, normalement, a les sceaux pour dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais à cette époque-là, le sceau dénotait l'autorité, garde des sceaux, et l'appartenance. Et on a l'idée, par exemple, quand un berger va se réunir avec d'autres bergers et ils ont tous leurs troupes en commun, comment est-ce qu'ils savent? Il y a une marque sur les bêtes, n'est-ce pas? C'est l'appartenance. On ne perdait pas le sceau. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu peut se confier en son Dieu. Parce qu'il a mis son sceau sur eux. Et nous avons vu dans notre étude de l'Apocalypse, cette marque, n'est-ce pas? Ce sceau qui est là. Et ce sceau, en fait, il est effectivement en Christ. Parce que regardez, ici on le voit, hein, « Je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur », tout de suite on pense. Il parle de Christ. Et oui, c'est vrai. Je te garderai comme un sceau, le sceau de l'Éternel. Parle de Christ. Oui, oui, c'est vrai, car je t'ai choisi. Bon, ça c'est clair, c'est Christ. Mais faisons attention au raccourci, parce qu'on perd beaucoup de richesses dans le raccourci. Dans un certain sens, Zorobabel est le serviteur de l'Éternel. Et il est une figure, une image de Christ. Oui, oui, Christ est appelé le serviteur. Allez. Ésaïe l'a déjà appelé cela. Pareillement, comme Zorobabel, Christ est loin de Dieu. Il a été loin, il a reçu l'onction. C'est son choisi, je t'ai choisi. Mais Zorobabel ne peut pas faire le sacrifice, ne peut pas offrir le sacrifice. C'est pour ça qu'au début du livre d'Agé, on a vu qu'il s'adresse à Zorobabel, gouverneur, et à Josué, sacrificateur. Il faut les deux hommes pour faire la médiation. Zorobabel, il peut défendre le peuple. Il a l'autorité pour ordonner le culte du peuple, mais pas pour offrir le sacrifice. Pour cela, il faut Josué. Et l'œuvre sera vraiment complète. Or, en ce temps-là, il vient quelqu'un Et là encore, quand on va dans Zacharie, Zacharie 6 par exemple, très clairement, voilà un qui aura à la fois la majesté, mais aussi il offrira le sacrifice. Et donc, tout ce que Dieu fait, qui peut bouleverser notre pensée, qui peut nous créer des grandes craintes, une confusion, des appréhensions terribles, qui peut nous dire, mais à quoi bon que je garde ma voix pure avec tout ce qui se passe comme ça, on ne sait jamais et tout ça. Gardons à l'esprit que Dieu est en train d'accomplir son dessein. Et son dessein n'est pas un dessein d'homme. Ce n'est pas des choses que les hommes peuvent imaginer. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Il prépare chaque jour cette épouse afin de la présenter entière, parfaite, glorieuse, sans tache, sans rien qui manque. Sans rien qui manque. Et aujourd'hui, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il se passe des choses entre les nations? Qui sait? Dieu peut, en fait, écarter, détruire une nation, un empire. Il peut mettre de côté un empire pour un seul élu, pour une seule brebis. On l'a vu tellement souvent dans la parole de Dieu. Et ça nous dépasse, là. Et donc, pour reprendre les paroles d'un serviteur d'antan, John Newton, quand le matin il se levait, il était âgé, alors il regardait le journal et il disait aux autres autour de lui, je veux regarder ce que mon père a fait dans le monde hier. C'est cela, n'est-ce pas? On regarde autour et on voit ce que Dieu fait. Et quand on ne le voit pas, on le sait qu'il fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lever tel homme, tel héros, tel homme puissant, telle nation, et ainsi de suite? Non, ça ce sont simplement des outils, ce sont simplement des choses qu'il utilise pour accomplir son dessein qui est en Christ. Et ce dessein-là n'est pas premièrement le bien-être de l'Église. Parce que même là, on n'aurait pas beaucoup, beaucoup de consolation. Parce que l'Église, vous et moi, si nous croyons en Christ, on est vraiment un ramassis de n'importe quoi. Un jour comme ça, le lendemain contraire. Non. En fait, il vise la gloire de son Fils. Et parce qu'il vise la gloire de son Fils qui va se manifester à travers cette épouse, alors nous pouvons avoir confiance. Voilà, le peuple d'Israël avait besoin de cette consolation. Et nous avons besoin de cette consolation. Savoir que Dieu est là, il règne. La souveraineté de Dieu n'est pas simplement une doctrine, c'est une réalité. Alors, réjouissons-nous, mes amis. Réjouissons-nous de ce que Dieu est un Dieu qui œuvre et qui n'œuvre pas au hasard, à l'aveuglette, au jour le jour, qui change ses politiques. Non, il poursuit. Et nous pouvons avoir une assurance, même au milieu des bousculades et des bouleversements qui se passent et qui se passeront. Qu'à lui soit la gloire en toutes choses. Amen.